Bonjour David, bonjour à tous. La CPAM a lancé une campagne de sensibilisation pour limiter le recours aux antibiotiques. Un excès nuit à l'efficacité des médicaments, ce qui pose un vrai problème de santé publique. Vous ne connaissez peut-être pas Alan Turing, mais ses travaux ont grandement influencé l'informatique, à découvrir ce soir lors d'une conférence à Thouars. Le restaurant Le Courly a été inauguré ce samedi et va rouvrir en tout début d'année prochaine à Courlay. L'actualité sportive du week-end résumée en 2-3 minutes et puis on s'intéressera au Chamois qui joue ce soir à Martigues. La cour d'assises des Deux-Sèvres ouvre une nouvelle session aujourd'hui et juge d'abord des affaires de viol sur mineurs, puis à partir de jeudi, le meurtre de Gaëtan Bondu à Parthenay, c'était début 2021. Enfin, Théo Hugonnet sera rejugé en appel pour le meurtre de Jessica Alain en 2019. Il avait écopé en première instance de 17 ans de prison ferme. La CPAM a lancé une campagne de sensibilisation sur les antibiotiques. Près de 37% des Deux-Sévriens ont recours chaque année à des antibiotiques, mais comme le dit le slogan bien connu, les antibiotiques ce n'est pas automatique, c'est le message que veulent faire passer l'Agence régionale de santé et la Caisse primaire d'assurance maladie à travers une campagne de sensibilisation, le but étant de freiner l'antibiorésistance. Julien Bouchereau est le responsable du département santé à la CPAM des Deux-Sèvres. Il est au micro de D4B.
On constate encore beaucoup de prescriptions qui pourraient être évitées et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque prescription évitable diminue la force des antibiotiques, c'est ça le sujet. Sans vouloir être trop technique, certains ont un spectre large, c'est-à-dire qu'ils vont tuer plus de bactéries et donc, en même temps, provoquer plus de résistance. Tout le monde est concerné, les usagers, bien sûr, sur le bon usage qu'on peut faire des antibiotiques qui nous sont prescrits, sur le fait de bien respecter les prescriptions des médecins, mais aussi les services vétérinaires, puisqu'ils sont là avec nous aujourd'hui. Dans les élevages intensifs, on sait qu'il y a des prescriptions, mais aussi sur les animaux de compagnie. Tout usage d'antibiotique non indispensable concourt à favoriser l'antibiorésistance. Et c'est à terme des bactéries qui s'adaptent et pour lesquelles on risque de ne plus avoir du tout d'antibiotiques et donc on ne sera plus soigné. C'est ça le risque au final.
L'antibiorésistance à l'origine d'une pandémie silencieuse selon les professionnels de santé. La MAIF va recruter 400 personnes d'ici 4 ans dans les métiers de l'informatique. L'enjeu est d'attirer suffisamment de jeunes pour venir travailler dans les assurances à Niort à lire ce matin dans la Nouvelle République. On évoque justement aujourd'hui un génie de l'informatique. La victoire des Alliés doit beaucoup à l'anglais Alan Turing, dont la science a permis de percer le secret de la fameuse machine Enigma, celle qui cryptait les messages des armées nazies. Et c'est ce mariage entre le calcul et l'informatique des machines qui sera le thème du film Conférence de l'Université citoyenne de Thouars ce lundi. Une soirée animée par Patrice Naudin, universitaire poitevin. Il est au micro-colline de Dominique Hérault.
Ça a raccourci la Deuxième Guerre mondiale de 2 ans. Au bout d'un certain temps, les Alliés savaient décoder tous les messages allemands, mais pour pas que les Allemands se doutent que leur code était cassé, de temps en temps, les Alliés ils laissaient des bateaux être coulés pour que les Allemands ne croient pas que tout ce qu'ils disaient était connu, alors qu'en fait, ils arrivaient à décoder absolument tout. On se rend compte que malgré cette connaissance qu'ils avaient de la stratégie allemande, etc., etc., ça a quand même coûté un nombre de vies considérable.
Quelle est la contribution de Turing dans le monde d'aujourd'hui?
C'est ce qu'on appelle la théorie de la calculabilité. C'est quelque chose qui permet de définir qu'est-ce qu'on peut calculer avec un ordinateur et qu'est-ce qu'on ne pourra jamais calculer avec un ordinateur. C'est de l'informatique théorique. C'est pour ça que Turing est connu dans le milieu informatique, avant tout. À un moment dans le film, on voit un crayon qui écrit sur une bande et qui efface ce qu'il écrit aussi. Donc ça, c'est un objet qui en fait préfigure un petit peu les ordinateurs. Il l'a inventé dans les années 30.
Esprit fécond, disparu à 43 ans en 1954, Turing a été un des premiers à propulser le XXe siècle dans l'ère des algorithmes, omniprésent aujourd'hui un précurseur de l'ordinateur.
Ce qu'il montre, c'est qu'on ne peut pas tout calculer. Donc ça, c'est le premier point qui, à mon avis, est le plus important. Le deuxième, c'est la cryptographie, on vient d'en parler un petit peu. Et puis, le troisième point, c'est l'intelligence artificielle. Il s'est rendu compte que beaucoup de choses qu'on attribuait à l'intelligence humaine, on pouvait les faire par une machine. Et il avait imaginé le test de Turing. Ça consiste à mettre dans une pièce un être humain, et puis dans une autre pièce, un être humain et un ordinateur. Et l'homme qui est seul dans sa pièce dialogue avec l'ordinateur et avec l'autre être humain. Et le test de Turing consiste à dire si l'être humain qui est seul dans sa pièce n'arrive pas à faire la différence entre les réponses de l'ordinateur et les réponses de l'être humain, alors c'est probablement que l'ordinateur est suffisamment intelligent pour faire cette illusion-là.
L'intelligence artificielle et ChatGPT sont donc la descendance de Turing. Le film La drôle de guerre d'Alan Turing sera diffusé ce lundi 4 décembre à 20h au cinéma Le Kiosque de Thouars, suivi d'un échange sur les fantasmes générés par la technologie, un débat animé par Patrice Naudin, que vous venez d'entendre au reportage de Dominique Héroux. Une nouvelle dynamique pour Courlay. Samedi, la commune procédait en effet à deux inaugurations. Celle de la MAM, maison d'assistante maternelle ouverte en avril dernier et qui est aujourd'hui au maximum de ses capacités d'accueil, à savoir 16 enfants, mais aussi l'inauguration du Courly. Fermé depuis 2019, ce restaurant en plein centre-bourg va en effet revivre pour le plus grand plaisir des ouvriers locaux, comme l'espère le maire André Guillermic, car il y a véritablement une demande, selon lui.
Il y a un manque depuis quelques années, même s'il y a quelques restaurants aussi dans les communes alentours, mais il y a réellement un manque. Et puis au-delà de ça, c'est la vie au cœur du bourg, toute une activité qui n'existe plus. Ne serait-ce que sur Courlay, c'est une cinquantaine d'entreprises. Ces gens-là ont besoin tous les jours de trouver des endroits pour se restaurer, donc le projet ici y contribue également.
Quel regard vous portez là sur cette réalisation aujourd'hui ?
Ah ben là, c'est magnifique. D'ailleurs, l'ancien propriétaire des locaux est là et disait tout à l'heure, tout a changé, on ne retrouve plus. La cuisine a complètement été réaménagée, les salles, on a fait sauter des cloisons, désormais ce sont des grandes salles, tout a été isolé, les huisseries ont été changées, on a changé la chaudière fioul pour une pompe à chaleur, donc tout a complètement changé, donc c'est un établissement qui est tout neuf.
La nouvelle gérante du Courly travaille dans la restauration depuis près de 20 ans, depuis 2004, et Johanna Guignard a conscience du défi qu'elle a à relever.
C'est un rêve que j'ai depuis plusieurs années. 3 ans qu'on est dessus et enfin ça prend forme. Donc du coup, j'ai recruté un ancien collègue de restaurant, donc qui sera mon chef cuisinier. Et après, au début, en salle, je serai toute seule. Nous verrons après, par la suite, en fonction du nombre de personnes que nous avons, si je dois embaucher quelqu'un ou pas.
Diriez-vous que c'est un véritable virage professionnel que vous avez entrepris ?
Ah oui, complètement. C'est vrai que j'ai hâte. Après, j'ai quand même un peu peur parce que, à 35 ans, se lancer là-dedans, on sait jamais si ça va marcher ou pas. Mais j'ai vraiment hâte.
Et ce nouveau restaurant Courlitais ouvrira ses portes le 2 janvier prochain. Encore un peu de patience. Sur les 583 000 euros nécessaires à la réhabilitation des bâtiments, 347 000 euros ont été pris en charge par la commune. Vous écoutez Colline et à midi 10, on aborde l'actualité sportive. Les Chamois jouent ce soir à Martigues en match décalé de la 15e journée de championnat de national. Une occasion pour les Niortais de conforter leur deuxième place face à un adversaire direct à prendre très au sérieux, selon le coach des Chamois, Philippe Insberger.
C'est une équipe qui, depuis quelques années, est en progression constante. Ils ont un coach qui est très très jeune, qui a beaucoup de qualité, il fait bien jouer son équipe. Ils ont des joueurs, si on regarde leur moyenne d'âge par rapport à nous, c'est peut-être 10 ans de plus, enfin, j'exagère, mais bon, comme toutes les équipes de national constituées en général, nous c'est un petit peu différent. C'est très solide, je crois qu'ils ont pris 8 buts, donc c'est la meilleure défense du championnat, ça veut tout dire, avec des joueurs d'expérience qu'il va falloir contrôler, il va falloir réduire l'influence, ça c'est clair. Et puis, toujours des joueurs capables de faire la différence. Ça va être une grosse partie pour nous. Si on veut marquer des buts contre cette équipe, déjà, il va falloir qu'on soit inventif et imaginatif.
Martigues, Chamois, c'est ce soir à 21h. En National 3, ce week-end, Choret a connu sa première défaite face au leader de cette poule, à Vertoux, 4-2, alors que les Choraisiens menaient 2-0, mais ont dû disputer toute la deuxième mi-temps à 10 suite à une exclusion. Niort a fait un nul contre la Châtaigneraie. 2-2. En Régional 1, Thouars battu par Saint-Jean-d'Angély 1-0, Bressuire et Neuville se quittent sur un 2-2 assez logique, ce match nul, selon Patrick Olive au micro de Jean-Michel Bernier.
Match nul logique. Les garçons ont essayé de faire de leur mieux, mais on a été trop imprécis techniquement. Et je pense que c'est surtout dans l'utilisation du ballon qu'on a été moins bon que ce qu'on avait fait la semaine dernière. Voilà.
Bressuire premier, talonné désormais par Neuilly-Aubier qui a battu Poitiers 4-1 et qui poursuit sur une belle dynamique. Écoutez Patrice Berthaud, le président de Neuilly-Aubier.
C'est un super résultat avec un championnat quand même qui est compliqué. Donc faut prendre des points et l'objectif c'est toujours le maintien. Après c'est vrai que personne ne nous attendait trop à cette deuxième place à ce moment-là de la saison.
En Régional 2, les résultats: Mokoutan vainqueur à la SRTS 2-1, Thouars à Nintré 3-2, l'Avenir 79 fait un nul contre Parthenay 1-1, le Talus battu par Dompierre-sur-Mer 3-1 dans la poule C de Régional 2, Choret battu par le leader Cause 2-1, et Échiré-Saint-Gelais a perdu contre Saint-Liguerre 2-0, Saint-Flo, Niort-Saint-Florent s'impose contre Angoulême-le-Roi 2-1. En Régional 3, dans la poule A, Aubin-Rortais bat Cerizay 4-0 et prend la tête du classement devant son adversaire du jour. Neuville a battu Bressuire 2-1, Vrines a battu Lalleu 1-0, le carton d'Interbocage battu à Onis FC sur le score très lourd de 8-0. En Régional 3, dans la poule B, Saint-Sauveur a fait un nul à Fontaine-le-Comte de partout. FC Autise, là aussi large vainqueur au Pays-Mélois, 6-0. Vouillé a été battu par Ruffec sur le score de 2-1. En basket, en National 2, masculine, 4e défaite de suite pour l'AS Niort face à la Lanterne Rouge qui plus est, Saint-Médard 68-76. En National 3, féminine, on savait que le match entre Choret et Bressuire était déséquilibré. Il l'a été, défaite 102-54 pour les joueuses coachées exceptionnellement samedi soir par Nathan Berthaud qui remplaçait Sylvain Schwartz. Écoutez la réaction de Nathan Berthaud.
L'équipe de Choret, c'est une équipe qui a des ambitions très fortes cette saison en National 3 et elles ont une équipe très complète avec un secteur intérieur hyper intéressant et un secteur extérieur plutôt adroit. Et donc quand on a essayé en fait de compenser sur le secteur intérieur en défendant très fort et en fermant à deux, et ben, elles ont réussi à sortir les ballons et à marquer beaucoup de 3 points. Donc on s'est battu avec nos armes, on a essayé des choses et puis voilà, après il y a deux mondes d'écart entre nos deux équipes.
En handball, en National 3 féminine, Praec a battu Rochefort sur un score large de 36-23. En volley maintenant, en National 2 féminine, les Pexinoises ont battu Saint-Jean-d'Illac 3-7-0. Une performance aboutie pour l'équipe de Rose Belling.
Honnêtement, cet après-midi, on a été bien. Hein. On fait un très très gros match. On est bien dans tous les compartiments. Quoi. C'est juste que les filles font beaucoup d'efforts à l'entraînement. Et là, c'est juste une récompense du travail, quoi, du travail qu'elles fournissent.
En National 2 masculine, en revanche, les Pexinois se sont inclinés à Brive 3-7-2. Troisième défaite consécutive pour le VBPN. On termine avec le rugby en National 2. Niort est allé s'imposer à Saint-Jean-de-Luz 25-15. En Fédéral 3, Choret a battu Erdre 24-20. Saint-Sébastien-Basse-Goulaine battu par Parthenay 22-43. En Régional 2 Nouvelle-Aquitaine, le COP 79 s'incline de justesse à Pleumartin 23-21. Et puis en R2 Pays de la Loire, Thouars a battu Ancenis 32-17.